Bienvenue au podcast Le Temps d'arrêt. Le podcast d'aujourd'hui est fièrement commandité par l'équipe Jordan Lanoux et associé chez IG Gestion de patrimoine. C'est une équipe de planificateurs financiers super terre-à-terre, dynamique et passionnée. Disponible et transparent, leur mission est de vous aider à réellement comprendre le monde dans lequel on vit et qu'on n'a pas pris le temps de nous expliquer. Simplement vous aider à atteindre vos objectifs et vulgariser le jargon des finances pour avoir la tranquillité d'esprit. Que vous ayez des questions sur la fiscalité, l'optimisation de vos revenus, les placements, les assurances pour votre famille ou votre entreprise, les études de vos enfants, l'achat d'une première ou seconde propriété, s'assureront de vous guider vers les priorités d'une période à l'autre. Nous sommes ravis de collaborer avec cette équipe qui partage notre vision d'un avenir financier sécurisé et prospère et qui nous permet de partager notre passion pour le sport. N'hésitez pas à les contacter pour prendre un temps d'arrêt et discuter de votre futur financier.
Bonjour à tous, bienvenue à l'épisode 94 du Temps d'arrêt. Je reçois aujourd'hui Michael et Montcharlant, Thierry Murray. Les gars, ça va bien?
Ça va très bien, merci toi, Étienne.
Ça va très bien, ça va très bien.
Vous l'aurez deviné, je ne vous reçois pas pour parler de jardinage. On parle plutôt finalement des séries éliminatoires, des playoffs de la NFL qui sont à nos portes. Puis les gars, on parle le thème de NFL Sunday sur Fox. Ça nous met dans l'ambiance. Let's go. Impossible de ne pas être craqué après ce thème. Un des plus beaux moments de l'année. Il ne fait pas beau dehors, il neige. Quoi de mieux que de s'installer devant notre téléviseur la fin de semaine pour regarder les séries qui commencent finalement. Une longue saison, hein, on va se le dire. Plusieurs semaines bien remplies, même si dans un calendrier annuel, la saison de la NFL n'est pas trop longue. Il se passe tellement de choses qu'on dirait que ça dure depuis des mois. Faisons un petit retour, si vous le voulez bien, les gars, avant de parler des affrontements qu'on a pour le premier tour, sur la grosse année qu'on a eue en couverture du temps d'arrêt sur nos power rankings qu'on faisait aux deux ou trois semaines, dépendamment, sur les équipes, les joueurs aussi. Et si je regarde vos prédictions de début de saison, avant la semaine 1, on est quand même à 4 des 7 équipes qui se sont faufilées en série, donc c'est bon. On a eu des surprises de part et d'autre, là, et c'est normal. Là. Je pense que de frapper pour 100%, ça aurait été digne d'un exploit.
De toute façon, c'est ça qu'on veut, je pense, c'est d'avoir quatre équipes. On sait que ces 4 équipes-là, c'est ça qu'on va voir, puis avoir des surprises dans les prédictions.
Mais Thierry, parle-moi donc un petit peu de justement la couverture que tu as faite de ton côté des receveurs, puis des équipes de la NFC, là, en quelques mots, pour mettre dans le bain un petit peu tout le monde.
Ben, c'est sûr que j'ai été quand même assez déçu des 49ers, qui selon les finalistes au Super Bowl l'année passée, qui finalement ont eu une saison très, très médiocre. Donc ça, je les avais mis deuxième au début de la saison au podcast, puis finalement, ça n'a pas vraiment marché de leur côté. Puis on a eu des grosses surprises, comme les Vikings, eux, qui sont sortis de nulle part. On n'en avait pas parlé, puis si on avait dû en parler, j'aurais sûrement pas été très élogieux à leur endroit, puis je me serais sûrement planté. Mais je pense que j'aurais pas été le seul à travers les fans de la NFL à s'être trompé sur leur sujet.
Définitivement. Michael, de ton côté?
Ouais, ben moi, j'avais mis les Jets que je voyais. Je voyais gros quand même les Jets. Puis on dirait que je me suis accroché, mais écoute, ça n'a vraiment pas levé cette année.
Non.
Les Bengals, je trouve ça vraiment dommage.
Ça passait proche.
Beaucoup de défaites par très peu de points. Là. Puis je trouve qu'ils ont connu une belle fin de saison, mais écoute, ils l'ont échappé. Puis les Dolphins, ça a été un peu catastrophique. Là.
Et du côté des Bengals, je pense que beaucoup d'équipes de la AFC, de l'Américaine, qui étaient très heureuses de voir les Broncos gagner, parce que oui, les Broncos, on en parlera, là, ils sont compétitifs, ils ont leurs atouts, leurs qualités. On parle d'une, sinon la meilleure attaque de la NFL dans le dernier droit, celle des Bengals. On faisait la pluie et le beau temps. Finalement, justement, le début de saison, la défaite contre les Pats, finalement, qui aurait fait la différence. Ouais. mais on a trébuché à quelques reprises. C'est une équipe qui aurait mérité d'être en éliminatoire. C'est dommage un petit peu pour eux, mais je pense qu'on aurait pu faire un bout de chemin si on s'y était faufilé. Une équipe qui rentre avec du momentum, c'est extrêmement dangereux.
Donc, oui, en plus, la réponse de Kelsey par rapport à ça sur les Bengals, il a dit « Ah, est-ce que vous avez reposé les partants des Chiefs pour ne pas voir les Bengals en playoff? » Puis Kelsey est comme « I ain't scared of fucking nobody. » Puis il a été piqué au vif. Là.
Voilà. Ce qu'on vous offre pour ce parcours éliminatoire, bien, c'est rien de moins que la plus grosse couverture de l'histoire du temps d'arrêt. On y va avec notre traditionnel épisode de début de saison. On va rajouter un plus court épisode entre chaque ronde. Donc, on reviendra la semaine prochaine, l'autre d'après aussi, sur les matchs qui ont eu lieu la semaine d'avant et ceux qui sont à venir. Donc, on est excité de vous offrir vraiment une couverture là, mur à mur au temps d'arrêt sur les éliminatoires de la NFL. On y allait souvent un petit peu plus global les dernières années. Là, on ne laisse rien de côté. Aucun détail ne nous passera sous le nez. Et ce qui va nous mener évidemment au Super Bowl où on va y aller vraiment d'une analyse là, en détail. C'est pourquoi aujourd'hui, on ne parlera pas trop des Chiefs et des Lions, les deux équipes qui ont terminé premier de leur association avec une fiche identique de 15 victoires, 2 défaites. Ils sont en bye cette semaine. On va jouer la semaine prochaine contre un adversaire qui est à déterminer. Donc, on en parlera plus longuement la semaine prochaine. Donc, on se lance dans le vif du sujet, si vous voulez bien, les gars. Vous allez analyser les rencontres qui se trouvent dans l'association que vous couvriez cette année. Je pense qu'on va être, vous connaissez un petit peu plus mieux ces équipes-là. Vous êtes bien passé pour en parler. On débute avec le premier match dans l'américaine qui se tiendra samedi à 16h30 entre les Chargers qui ont terminé avec une fiche de 11-6, bon pour le 5e rang, et les Texans qui ont une fiche inférieure de 17, même premier de leur section, qui ont terminé 4e, reçoivent les Chargers. Les Chargers sont 6-3 à l'étranger et l'attaque des Chargers a vraiment pris son rythme. Là, on peut parler qu'il y a eu un effet John Harbaugh.
Absolument. C'est John ou c'est Jim?
John, c'est son frère.
Moi, j'ai noté que Jim Harbaugh, c'est vraiment un gagnant. Quand on parle de Michigan, il a monté le programme aussi. Donc,
champion national pour ceux qui n'étaient pas trop ouais, au courant. Là.
Exact. Donc, vraiment un bon entraîneur. Puis, c'est sensiblement... le personnel, je change un petit peu, mais je trouve que c'est vraiment la vague du coach, la nouvelle ambiance dans l'équipe. Ça a donné un nouveau souffle à cette équipe-là. Mais cette confrontation-là, pour moi, c'est une des plus serrées qu'on va voir en fin de semaine. Quand on regarde les statistiques au niveau de l'attaque, les deux se chevauchent. Tu sais, si on prend les verges par match, 340 LA, Houston 344. Donc, toutes les stats qu'on peut regarder, je trouve que sont vraiment côte à côte. La différence pour moi qui devrait se passer selon moi, c'est au niveau du corps arrière. C'est CJ Stroud, je trouve, une saison décevante.
Juste pour mettre les gens en contexte, Michael, on a souvent parlé au podcast du passing rate. Celui de CJ Stroud est de 87.0, donc une grosse chute par rapport à l'année passée. Et du côté d'Herbert, on parle de 101.7. Seulement 3 interceptions, c'est extraordinaire quand même.
Oui, absolument, absolument. Puis tu sais, leur nombre de verges est sensiblement pareil. 3800 pour Herbert, CJ, il y en a 3700 quelques. Mais tu sais, CJ, il a perdu Tank Dell, puis là, il a perdu récemment Stephon Diggs.
Oui.
Fait que je trouve qu'il a comme perdu beaucoup de munitions. Donc, j'ai l'impression que ça va jouer vraiment contre eux, mais ça risque d'être quand même serré parce que les deux défenses excelle contre la passe. Donc, quelle attaque va être capable de surpasser et de dominer d'excellentes défenses contre la passe? J'ai hâte de voir ça.
Tu parles justement que cette attaque des Texans est diminuée. Joe Mixon est au ralenti depuis quelques semaines. Cette attaque-là est en panne depuis le mois de décembre. Alors que de l'autre côté, c'est tout le contraire. Les Chargers, on est solide. On a une chimie extraordinaire entre Herbert et Ladd McConkey,
oui,
qui a terminé avec 1149 verges. l'un des meilleurs receveurs de la ligue en deuxième moitié de saison. On a un J.K. Dobbins qui devrait être en santé. C'est une attaque très équilibrée et fiable. Donc, juste de ce côté-là, au point de vue des... C'est plate à dire pour les Texans, mais au point de vue des blessures, gros avantage pour les Chargers au niveau de l'attaque. Un point sur lequel je me suis arrêté, c'est la ligne offensive des Chargers devra arrêter le front défensif des Texans qui est puissant. Là. Ouais. Will Anderson, Danielle Hunter, c'est 11 et 12 sacks. Hunter participe au Pro Bowl. C'est vraiment... on est un petit peu plus vulnérable par la passe. On a quand même un Derek Stingley qui s'est élevé comme l'un des meilleurs de la Ligue cette saison. On a quand même des éléments à prendre en considération du côté de la défense des Texans.
Oui, absolument. La défense des Texans, ils ont tenu le... On parlait du rating des corps arrière tantôt. Les corps arrière adverses contre la défense de Houston ont été tenus à un rating de 54,7, qui est bon pour le septième rang dans la Ligue. Donc, comme tu parlais de la pression, ils sont quatrième au niveau des sacks. Ils en ont 49 dans l'année. Hunter, tu l'as mentionné, est cinquième dans la Ligue avec 12 sacks. Stingley Jr. et Bullock, 5 interceptions chaque, c'est bon pour le sixième rang. Fait qu'au niveau de la défense, les Texans, écoute, je pense que c'est ça qui va garder le match serré parce qu'au niveau de l'attaque, j'ai l'impression que, tu sais, oui, LA, ils vont surpasser, d'après moi, les Texans, mais ça va être un match très, très, très serré. Puis, écoute, selon moi, ça peut aller d'un bord que de l'autre. Si on regarde les chiffres, pour moi, ce serait les Chargers, par exemple.
Pour terminer sur l'aspect blessure, si c'était l'attaque des Texans qui est diminuée, bien, c'est le contraire un petit peu du côté des Chargers. La tertiaire est diminuée. On peut penser qu'un Derwin James qui a connu une excellente saison, on aura vraiment plein les bras, il devra vraiment monter son jeu d'un cran. Une dernière statistique que je veux mettre en lumière, la ligne offensive des Texans est quatrième pour le nombre de sacs alloués. Donc, c'est la quatrième équipe qui a alloué le plus de sacs cette saison contre les Chargers qui sont sixième pour les sacs réussis. Donc, on sait que les Chargers, on a des vétérans comme Bosa, comme Khalil Mack. Ils n'ont plus l'impact qu'ils avaient. On travaille en comité, mais on pourrait avoir un aspect qui avantage grandement les Chargers à ce niveau-là. Justement, cette guerre des tranchées, selon moi, fera en sorte aussi que j'avantage les Chargers pour ce premier match.
Et une dernière, là, ça m'a surpris, les Chargers sont premiers pour les points contre par match avec 18. Fait que, tu sais, les autres stats sont à peu près le premier tiers, mais vraiment pour les points, là, sont premiers. Fait qu'ils peuvent, ils plient un petit peu, mais ils cassent pas. 18 points, c'est vraiment pas beaucoup. Donc, du gros travail à faire pour CJ.
Effectivement. Premier match dans la nationale se tiendra dimanche à 16h30. Thierry, tu vas clairement être rivé à ton téléviseur et tu vas être stressé pour regarder le match entre les Packers qui ont terminé à 11-6. Bon pour le septième rang, et les Eagles et leur fiche de 14-3. Les Eagles ont terminé à 8-1 à domicile. Depuis leur bye à la semaine 5, ils sont 12-1. Et là, la grande question, c'est est-ce que Jalen Hurts sera en santé? Il est aux prises avec une commotion cérébrale qui lui a fait manquer les dernières semaines d'activité. S'il est absent, ce sera Kenny Pickett. Et on ne parle pas du même individu pour vaincre les Packers, mais de ce qu'il a pratiqué aujourd'hui, devrait être en mesure là, d'affronter les Packers.
Ouais. Avant de commencer, Étienne, pour ceux qui nous regardent sur YouTube, je vais changer ma casquette pour celle-là des Eagles.
Pas de problème. On y va avec l'aspect partisanerie, j'adore ça.
Donc, effectivement, tu as parlé de Jalen Hurts, là, c'est quand même à surveiller, mais selon moi, il va jouer. Je pense aussi qu'on garde un peu le suspense pour... Pas divulguer trop vite aux Packers contre qui ils vont devoir jouer. Est-ce qu'ils se préparent pour Jalen Hurts ou ils se préparent contre un autre carrière, un Tanner McKee ou un Kenny Pickett? Donc peut-être c'est une stratégie juste pour brouiller les cartes, mais selon moi, ça va faire un mois que Jalen Hurts a fait sa commotion. On est en éliminatoire, je pense ça me surprendrait fortement qu'il soit pas habillé. Là.
Ouais. D'un point de vue, pour continuer sur Jalen Hurts, ça n'a pas été sa saison la plus excitante, mais possiblement sa plus efficace. Là, on regarde, il a eu son meilleur passing rate en carrière à 103,7. Ses receveurs, on a semblé avoir eu un petit peu de l'inconstance du niveau. Oui, A.J. Brown, il a été blessé. Il a montré son mécontentement. On a un Devin Smith et Dallas Goedert qui sont des belles cibles. Mais l'attaque a véritablement passé par Saquon Barkley qui a terminé avec 2005 verges au sol. C'est quand même considérable comme exploit, là.
Oui, ben, en fait, c'est ça. L'attaque a eu de la difficulté à se mettre en marche. Je pense que les quatre premières semaines, là, c'était quand même assez difficile. On avait un mauvais équilibre, les passes n'étaient pas au rendez-vous. Puis on a vraiment débloqué après ça. Là, on a eu une séquence de beaucoup de victoires en ligne. Puis là, Jalen s'est replacé un petit peu. Mais en même temps, justement, étant donné que ça passait par le jeu au sol avec la grosse ligne à l'attaque et Saquon Barkley. Donc, on n'a pas eu besoin d'être si efficace que ça par la passe. Puis je pense que c'est justement bien que. C'est une bonne année pour que Jalen Hurts ait un ralentissement. On avait une grosse attaque au sol pour compenser.
Trois membres de cette ligne à l'attaque qui sont au Pro Bowl, c'est pas rien. Et je veux saluer quand même là, le sacrifice que Saquon Barkley a pu faire. Il aurait pu disputer le dernier match de la saison et espérer battre le record de tous les temps pour les verges au sol dans une saison qui était de 2105, si je ne me trompe pas. Mais préférer rester sur les lignes de côté et, pour éviter une blessure, comme on a vu par le passé, là, c'est arrivé que des partants se fassent blesser au dernier match. C'est toujours désolant pour les éliminatoires. On affronte la cinquième
J'allais dire, je pense que tous les fans de football auraient aimé ça, voir Saquon Barkley jouer et battre le record. Oui. Mais si on se pose la question puis on est plus terre à terre, ça n'avait pas de bon sens de le faire jouer. Si il joue, il gagne 50 verges, il déchire un ligament croisé, puis là, après ça, tu ne l'as plus pour les éliminatoires. Ça aurait été catastrophique. Donc, c'était la bonne décision à faire, même si c'était déchirant.
On affronte une équipe qui va être quand même bien outillée pour faire face à ce bon jeu au sol. Les Packers sont 5e meilleure défensive pour les points accordés, 7e contre le jeu au sol. On est 8e pour les sacs. Qu'est-ce que tu redoutes en tant que de partisan de la défensive des Packers?
Ce que je redoute, c'est, comme je te parlais tantôt, Jalen Hurts, malgré tout, ça fait un mois qu'il n'a pas joué. Ça fait un mois que l'équipe partante des Eagles en attaque ne joue pas avec leur général. Donc, selon moi, il va quand même avoir un petit peu de rouille, surtout au premier quart. On va vouloir installer notre jeu au sol, mais justement, les Packers vont s'en douter. Puis en plus, ils sont bons contre le jeu au sol, donc j'ai l'impression qu'on va charger la boîte. On va essayer de dire, non, au premier quart, vous allez devoir nous passer avec vos receveurs, avec votre jeu aérien. Donc j'ai l'impression que ça pourrait, au premier quart du moins, ça pourrait tenir les Eagles à un très bas pointage, peut-être même à zéro. Surtout que les Eagles n'ont pas été très bons au premier quart durant toute la saison. Ouais. Je pense que c'est une des équipes qui a marqué le moins de points au premier quart de toute la ligue. Donc ça, selon moi, ça pourrait être une clé pour les Packers, du moins pour freiner les Eagles.
Le maraudeur Xavier McKinney des Packers a eu une saison extraordinaire. Rashawn Gary est un membre du Pro Bowl aussi. Donc, des éléments qui sont capables de faire la différence du côté de la défense des Packers. L'autre côté du ballon, on parlait tout à l'heure de l'attaque des Texans qui est diminuée. C'est la même chose du côté des Packers. Jordan Love a manqué la dernière semaine d'activité, blessure au coude. Il est questionnable pour le match. Il devrait jouer, mais il va être ralenti. Jordan Love a eu beaucoup de blessures durant la saison. S'il est absent, ce sera Malik Willis et on sait que ce n'est pas du tout la même attaque avec lui. On a un Christian Watson qui est absent. Il est blessé pour jusqu'à la fin de la saison. Romeo Doubs, un autre receveur qui a un virus. Il n'est pas certain de disputer le match. Donc, on a une attaque diminuée. Nos meilleurs receveurs sont absents. Ce sera beaucoup de pression sur Jaden Reed, mais surtout sur Josh Jacobs, qui a eu une année extraordinaire. À un moment donné, il ne pourra peut-être pas faire tout seul, là.
Oui, écoute, tu en as parlé, puis les Eagles, cette année, sont classés premiers au niveau des verges par la passe en défensive. On a accordé 174 verges par match toute la saison. Donc là, tu viens d'en parler, Jordan Love qui a une blessure, Christian Watson ne sera pas là. Ça va être une grosse tâche. Il va falloir que ça passe par le jeu au sol. Puis en même temps, les Eagles sont très bons aussi contre le jeu au sol. Avec nos deux gros plaqueurs défensifs, Jordan Davis et Jalen Carter, qui sont dans le milieu. Ça va être difficile en attaque de trouver nos repères parce que justement, on risque d'être assez unidimensionnel. Puis c'est rarement bon une équipe qui est
Ce qui me
unidimensionnelle en
fascine
éliminatoire.
du côté de la défensive des Eagles, c'est à quel point on est capable de repartir un nouveau processus, de se rafraîchir avec des effectifs nouveaux. On regarde leur duo de linebacker, pardon, le terme français m'échappe là.
Secondaire.
Le secondaire, pardon, oui, merci. Zach Bond et Nakobe Dean, qui ont été extraordinaires cette année. Nos deux premiers choix au dernier repêchage, Quinion Mitchell et Cooper DeJean, qui sont deux joueurs qui évoluent dans la tertiaire des Eagles, ont eu une année fantastique aussi. Alors, des joueurs qui on amène, pas de n'importe où, parce que ce sont des joueurs à haut profil, mais on a le don de rentabiliser les choix qu'on va chercher du côté de la défensive des Eagles, puis on dirait que ça marche régulièrement, là.
Ouais, ça, il faut féliciter Howie Roseman,
Ouais.
le DG des Eagles, qui a l'air toujours de frapper dans le mille quand il va chercher des agents libres. On dirait qu'à chaque saison, il va chercher des agents libres vraiment pas chers, puis il est capable de les faire jouer à un niveau élite. Là, Zach Bond, écoute absolument rien. Je pense qu'il fait le salaire minimum d'un joueur de la NFL qui est, je pense, même pas 1 million par année.
Lui aussi
Puis
sera au Pro
il
Bowl
est
du salaire.
classé comme le meilleur secondaire cette année. C'est une aubaine incroyable, donc vraiment du bon travail de
Donc,
ce niveau-là.
en mentionnant tout ça, je pense que c'est difficile de ne pas donner l'avantage aux Eagles. Surtout, ils sont à domicile, c'est difficile d'aller battre les Eagles avec cette foule hostile.
Une dernière chose en plus, c'est que tu sais, il y a souvent une question de momentum aussi. Puis les Packers, présentement, ont clairement pas un très bon momentum. Ont perdu leurs deux derniers matchs. Ont même perdu contre les Bears. Qui sont très ordinaires en fin de
Ouais.
saison. Tu sais, ils perdent leurs deux derniers matchs, perdent leur meilleur receveur. Jordan Love se blesse. Je ne sais pas c'est comment dans ce vestiaire-là, mais je ne sais pas s'ils sont.
Mieux d'être
Je ne
solide.
crois pas qu'ils sont gonflés à bloc là, dans le vestiaire. Là.
Effectivement. Le deuxième match dans l'Américaine, Michael, se tiendra samedi à 20h. Et il y a un mois, on aurait dit que c'est un duel qui aurait pu m'exciter et dans lequel les Steelers auraient probablement été à domicile. Là, les choses ont changé. La situation a été complètement différente depuis un mois. On parle d'une victoire des Ravens une victoire clé de 34-17 le 21 décembre contre les Steelers, justement. C'est quatre défaites de suite pour les Steelers. Très mauvaise manière d'entamer les séries. On rentre définitivement pas avec de la confiance, là.
Non, absolument pas. Puis, on en a parlé en début d'émission. Rentrer dans les séries, que ce soit dans la Ligue nationale, dans la NFL ou peu importe, quand tu rentres avec une confiance, ça paraît. Puis souvent dans les éliminatoires, c'est ce qui peut faire la différence. Donc on parle d'intangibles, oui, les statistiques, mais arriver avec du momentum, ça peut jouer pour beaucoup. Puis normalement, les Ravens, c'est la fiche contre les Steelers, je pense que c'est trois victoires pour les Steelers. Contre les Ravens, une défaite en éliminatoire, quelque chose comme ça. C'est comme leur bête noire. Mais je pense que la victoire qu'ils ont eue, les Ravens, récemment contre les Steelers, ça donne en plus confiance à une équipe qui, honnêtement, sans ça, déborde déjà de confiance. On va se dire, là, au niveau de l'attaque, tout feu, tout flamme.
Cette mauvaise séquence des Steelers est directement liée aux performances de Russell Wilson, qui a eu des bons moments cette année, mais lors de ces quatre défaites, ça a été très difficile. On semble avoir un problème de connexion avec nos receveurs, avec George Pickens. Du côté du jeu au sol, même si on est 11e, on n'a pas eu de constance de Najee Harris. Et je trouve ça toujours intéressant de voir un joueur comme justement Najee Harris qui va récolter plus de 1000 verges au sol cette saison, mais qui a pas été une menace constante cette année. Il n'a pas réussi à avoir un impact. Donc, je trouve qu'on met souvent trop d'emphase sur la statistique de 1000 verges pour un porteur de ballon. Il est l'exemple flagrant que c'est un joueur qui va être capable d'aller chercher ce plateau des 1000 verges-là, mais qui pourra la plupart du temps ne pas avoir un impact dans un match-là.
Non, mais c'est ça. C'est pas beaucoup. 1000 verges, on parlait du 1000 verges, mais il ne faut pas oublier que récemment, on a ajouté un match aussi dans les saisons. Donc, les
Effectivement.
statistiques sont un petit peu biaisées par rapport à ça. Puis, comme tu l'as dit, l'année passée, Najee Harris, on le voyait dans les highlights et tout. Puis, écoute, comme tu l'as dit, ça n'a pas été un facteur du tout. George Pickens est capable d'être un excellent receveur. Par contre, comme tu as dit récemment, Russell Wilson, la chaîne a débarqué, mais vraiment au mauvais moment. Parce qu'en début de saison, moi, je n'y croyais pas tant aux Steelers. Puis écoute, ils m'ont fait mentir quand ils ont changé de corps arrière. On ne savait plus Justin Fields, Russell Wilson. Vraiment, on lançait des fleurs au coach Mike Tomlin. Bravo pour Russell Wilson. Puis là, finalement, ça fait pouet-pouet en fin de saison. Donc, écoute, si je regarde juste au niveau de l'attaque, au niveau de la passe, ils sont 27e, les Steelers. 11e au sol.
La consolation, c'est qu'on affronte, on affronte vraiment pas la meilleure défensive aérienne de la ligue de la NFL. Il faut quand même mettre un bémol là, sur le fait que les Ravens sont 31e contre la passe. Il faut parler de l'hécatombe absolument épouvantable que la défensive des Ravens ont connue durant l'année. Là, on a eu un, deux, trois semaines où tout le monde était blessé littéralement. Donc, cette statistique-là est un petit peu faussée. Est-ce qu'on a une des meilleures défensives contre la passe? Pas du tout. Mais on a certains points aussi à garder en tête, là. On a un Kyle Hamilton qui n'est pas certain de jouer. Sa présence est extrêmement importante. Mais en défensive, lorsqu'on a des gars comme Marlon Humphrey, comme Roquan Smith, qui sont dans les meilleurs de la ligue à leur position, ça va être difficile pour l'attaque des Steelers qui est déjà en panne.
Ça va être très difficile. Puis, tu sais, si on regarde les statistiques de la défensive overall dans la saison, c'est sûr que Baltimore sont. Ça peut être mauvais contre la passe. Par contre, je regardais là, dans les 7 dernières semaines, les Ravens allouent seulement 15 points par match, sont numéro un dans la ligue. Donc, depuis environ 2 mois, il n'y a pas de meilleure équipe qu'eux en ce moment. Fait que, tu sais, quand on parle de piquer au bon moment, c'est ça que Marlon Humphrey a dit, je pense, cette semaine. Il dit. On parle tout le temps de piqué, puis là, je pense que notre cohésion défensive, on est vraiment en symbiose, puis ça paraît, écoute, ça porte fruit, là.
Passons d'une attaque très peu excitante à une qui l'est au plus haut point, celle des Ravens de Baltimore, qui on a un jeu au sol absolument dévastateur. On
Ah
en
oui.
parlait en début de saison à quel point justement cette menace, cette double menace avec Derrick Henry et Lamar pouvait être violente, mais je pense que on n'effraie même pas tout le potentiel que ce duo-là pouvait avoir. On a vraiment dépassé les attentes. Derrick Henry, c'est 1921 verges au sol. Lamar, c'est 915. Il a aussi été excellent par la passe. Un passing rate de 119,4, 41 touchés, 4 interceptions. On regarde les statistiques qu'il avait eues dans les saisons précédentes où il a gagné le joueur le plus, le MVP. Ces statistiques étaient moins bonnes. Donc, on ne va pas lui donner trop vite non plus. Il y a d'autres bons candidats, mais force est d'admettre qu'il est dans une position où on est placé, il rentre avec beaucoup de confiance. Mais le point d'interrogation majeur revient toujours avant de parler de la défensive des Steelers. Est-ce qu'il va être capable de faire le travail quand ça compte?
Ben écoute, moi c'est ce que j'ai. Tout ce que tu as dit sur Lamar est vrai, puis j'ai écrit dans mes notes, la seule affaire qui accroche dans ce match-là, est-ce que Lamar peut gagner en séries éliminatoires? Fiche de 2 victoires, 4 défaites. Dans ces matchs-là, 6 interceptions, 3 ballons échappés. Donc, écoute, est-ce que c'est un joueur qui choke sous la pression? Je ne sais pas, mais en même temps, tu sais, c'est sûr, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Mais dans une saison comme il y a eu cette année, puis avec un Derrick Henry en santé qui peut vraiment charrier l'équipe sur ses épaules, tu sais, c'est un monstre à deux têtes. On en parlait en début de saison, mais comme tu as dit, on n'avait pas idée à quel point ça allait être dominant. Puis ça aide à toutes les facettes, là. On va se dire, Lamar Jackson a d'excellents chiffres au niveau aérien. Mais ce qui se passe, c'est que les défensives remplissent la boîte, les secondaires se rapprochent pour soit arrêter Derrick Henry ou éviter une faufilade de Lamar qui court. Ben là, évidemment, ça crée des couvertures homme à homme, puis des receveurs qui sont peut-être pas dominants dans la ligue, mais ils réussissent à se libérer, ce qui aide énormément l'attaque des Ravens.
Et justement, à ce niveau-là, excuse-moi, l'un des points essentiels pour les Ravens et un aspect médical qui va être le plus important de tout le week-end, c'est la présence ou non de Zay Flowers qui s'est blessé en fin de saison. De loin, le meilleur receveur de l'équipe, extrêmement rapide et dynamique. Il n'a pas pratiqué aujourd'hui. Donc, s'il n'est pas là, ça va être une perte majeure là, pour l'attaque des Ravens. Concluons
Les gars, je
avec.
voulais
Oui,
dire,
excuse-moi, vas-y, Thierry.
parlant des Ravens, j'espère que le coordonnateur offensif a appris de ses déboires de l'année passée, puis va utiliser le jeu au sol beaucoup plus que le jeu aérien, surtout.
Ben oui, pour vrai.
On n'a pas le choix. Là. Je pense que même, peu importe qui on affrontait, c'est l'identité de cette équipe-là. Il faut que ça passe par là. On affronte une excellente défensive, celle des Steelers. On a des joueurs qui peuvent faire la différence. Là. Cameron Hayward, TJ Watt, Joey Porter Jr., Minkah Fitzpatrick et surtout Patrick Queen qui risque d'être accueilli de manière très chaleureuse à son ancien domicile. Reste qu'on a vraiment des éléments qui... On est sixième contre la course quand même. Là. Oui, on affronte des meilleures équipes de la NFL à ce niveau-là, mais on a quand même des éléments qui peuvent les arrêter.
Oui, absolument. T'sais, comme tu l'as dit, sixième contre la course. Les points par match sont huitième dans la ligue. Pour arrêter les troisième essais, sont deuxième. Les verges par les matchs, là, les verges totales, autant aériennes que courses, sont onzième. Donc, écoute, le X, si on veut, dans cette défense-là, c'est au niveau contre le jeu aérien. Ils sont 25e. Mais le reste, ils sont vraiment dominants. Donc, est-ce qu'ils vont forcer Lamar à, justement, Thierry le mentionnait, est-ce que le coach va capoter un petit peu avec ça, puis il va y aller, oh, on va profiter de leur faiblesse, puis on va lancer le ballon beaucoup, ou il va quand même y aller avec ça, leur identité, montre à deux têtes, ils vont utiliser le jeu au sol. Moi, je leur souhaite, même si les TJ Watt et compagnie sont là, de rester avec leur jeu au sol. C'est dès que ton jeu au sol il marche, ça ouvre le jeu aérien, puis ils vont être en business en masse.
Exactement. En fait. On ne garantira pas une présence des Ravens au Super Bowl, mais ça devrait pouvoir tenir pour cette première semaine éliminatoire. Le deuxième match dans la NFC se tiendra dimanche 20h. Opposera les Commanders et leur fiche de 12-5, bon pour le sixième rang, contre les Buccaneers et leur fiche de 17. Encore une fois, on parle d'une question de premier, de division. Les Buccaneers ont été premiers dans une section très faible. Les Commanders, voilà pourquoi ils sont à l'étranger. Tampa Bay, c'est 5-4 à domicile cette année. Washington, 5-3 à l'étranger. On note la victoire de 37-20 de Tampa Bay à la semaine 1. Ça fait quand même très longtemps. Mais quand même, pour mettre en contexte le dossier de 12 victoires des Commanders, Washington cette année, c'est 8 victoires par 6 points au moins. On a facilement une ou deux victoires qu'on n'aurait pas dû obtenir. Là, je pense tout de suite au Hail Mary contre les Bears. 9 fois sur 10, ce jeu-là ne marche pas. Ouais. Donc, parle-nous un petit peu de ce qui retient ton attention sur cet affrontement-là, Thierry.
Ah ben, t'en as parlé, Étienne, puis je vais revenir là-dessus, mais je peux t'énumérer les victoires des Commanders contre qui ont gagné. On a gagné 2 fois contre les Giants, 1 fois contre les Bengals, 1 fois contre les Cardinals, contre les Browns, contre les Panthers, contre les Cowboys. Donc, c'est toutes des équipes qui sont très médiocres. Donc, on n'a pas de victoire signature. La seule qu'on a eue, c'est contre les Eagles. Puis les Eagles, on se rappelle qu'ils ont perdu Jalen Hurts au premier quart de cet affrontement-là. Donc, selon moi, c'est une équipe qui est prometteuse. Ils ont trouvé un bon carrière qui joue super bien. Il va probablement être la recrue
offensive de l'année.
Offensive par excellence. Mais j'ai l'impression qu'ils sont pas où ils devraient être. T'sais, ils ont été très favorables dans leur affrontement cette année. Puis, tu sais, j'ai l'impression que ça va leur jouer des tours en éliminatoire. Je crois pas qu'ils vont faire un long bout de chemin. Ils pourraient gagner ce match-là parce que, comme tu l'as dit, les Buccaneers, ils ont rentré de peine et de misère dans une division que c'était très faible. Donc, peut-être le premier tour, c'est pas inatteignable pour Washington, mais je pense que si c'est le cas, ça va s'arrêter là après.
L'élément qui aurait pu jouer en leur faveur est justement le jeu au sol. Jaden Daniels est allé chercher 891 verges cette année. On a un Brian Robinson et un Austin Eckler qui peuvent être des menaces au sol. On est troisième dans la NFL à ce niveau-là. Par contre, on affronte une défensive qui excelle contre justement ce jeu au sol-là. On a le gros Vita V qui est un membre du Pro Bowl cette année, qui est énorme, qui est dominant. Donc, ça devra possiblement passer par le jeu aérien. Et lorsqu'on regarde les munitions que les Commanders ont, après Terry McLaurin et Zach Ertz, c'est très mince. Là, on a un Noah Brown qui est sur la liste des blessés qui ne jouera pas. C'est dommage parce que Tampa Bay sont 29e contre la passe. Il va falloir que ça passe par le jeu aérien pour Jaden Daniels.
Oui, vraiment. Puis comme tu l'as dit, on n'a pas beaucoup de profondeur. On a des excellents joueurs. Justement, Terry McLaurin est des meilleurs de la Ligue. Mais à travers les matchs de Terry McLaurin, on l'a vu des fois complètement être invisible, puis des fois exploser avec deux passes, deux touchés, puis 150 verges de réception. Mais il y a plusieurs équipes qui ont été capables de le menotter, puis que ça passe par les autres. Donc, je pense que ça va être le plan de match au niveau des Buccaneers. Ça va être de passer par... ils vont tout faire en sorte pour que ce soit Jamison Crowder qui reçoive le ballon, des joueurs comme ça. Donc, en tout cas, moi, si j'étais un coordinateur défensif, c'est ce que je me pencherais cette semaine à comment arrêter Terry McLaurin.
Washington, un petit peu dans la même note que dans l'affrontement entre les Chargers et les Texans. Washington a la 7e ligne offensive qui alloue le plus de sacs, alors que les Buccaneers ont la 7e qui en fait le plus. Pour moi, c'est un chiffre marquant quand même. L'autre côté du ballon, on parlait d'une attaque qui n'est pas vraiment diversifiée. On passe à une attaque qui a quand même plusieurs éléments qui peuvent faire le travail. Tampa Bay, 4e meilleure attaque pour les points marqués, 3e au sol, 4e par la passe. Pour le jeu au sol, ça peut passer par un Bucky Irving qui a une révélation cette année, là, 1122 verges au sol. Et régulièrement dans les matchs, il ne faisait même pas 10 courses dans une rencontre. On a un Rashad White qui a terminé avec 613 verges au sol, Sean Tucker 308, Baker Mayfield 378. Donc le jeu au sol peut passer par ces quatre bonhommes-là et c'est définitivement une force pour les Buccaneers, là.
Oui, puis ça, c'est une confrontation qui est extrêmement avantageuse pour les Buccaneers parce que les Commanders contre le jeu au sol sont 30e dans la Ligue. Donc, c'est vraiment une de leurs faiblesses. Donc, une force des Buccaneers versus une très grande faiblesse de Washington. En tout cas, ça, c'est un filon à exploiter si on est les Buccaneers. Oui, on a un bon jeu aérien, mais il faut vraiment que ce soit le jeu au sol qui soit prédominant dans ce match-là. Puis on parlait tantôt de momentum. C'est sûr que ces deux équipes-là arrivent quand même avec du momentum. Je ne sais pas si vous avez vu la fin de match des Buccaneers la semaine dernière. Mike Evans ils ont fait un jeu inutile juste pour que Mike Evans aille son plateau des 1000 verges. Voilà. C'est sa 11e saison consécutive avec 1000 verges. Puis les Buccaneers étaient complètement hystériques là, sur le terrain. Ouais. C'était l'hystérie totale avec Mike Evans avec gonflé à bloc. Donc ça, j'ai l'impression que ça va galvaniser les troupes. Là. Ils vont être vraiment crinqués là, pour ce match-là. Là.
Et si on met les choses en perspective aussi, on regarde les statistiques de Mike Evans cette année. Il a à peine franchi le 1000 verges, mais il a quand même manqué un mois d'activité. Donc, ça a été un facteur très important pour l'équipe en fin de saison dans cette course aux éliminatoires. Baker Mayfield, autre excellente année, là, passing rate de 106.3, 41 touchés, 16 interceptions. Donc, devra faire attention de ne pas donner le ballon à l'autre équipe. On a quand même quelques armes. Cade Otton, l'ailier rapproché, belle surprise cette année. On a un Jalen McMillan qui a vraiment levé son jeu d'un cran depuis l'absence de Chris Godwin. Donc, oui, la tertiaire dans laquelle Benjamin Saint-Just fait partie des Commanders est bonne, fait le travail, mais vraiment, là, comme tu l'as dit, c'est le mismatch, c'est au niveau du jeu au sol. C'est ce qui fait en sorte que ça reste d'être très, très difficile pour les Commanders de l'emporter.
Oui, puis ce qu'il faut regarder aussi, c'est comme tu t'en as parlé, on a deux Baker Mayfield. On a Baker Mayfield avec Mike Evans, puis Baker Mayfield sans Mike Evans, puis c'est complètement différent. Puis là, ben, chanceux pour eux, Mike Evans, il est là. Donc, ça devrait beaucoup les aider. Mais c'est sûr que pour Washington, il faut arrêter le jeu au sol. C'est sûr qu'on a passé une longue partie de la saison sans notre plaqueur vedette Jonathan Allen. Là, il est de retour au jeu depuis 2 semaines. C'est sûr que là, il était peut-être un peu rouillé. Mais c'est sûr qu'avoir Jonathan Allen puis Daron Payne au centre, ça va probablement aider. Est-ce que ça va tout changer? Mais en tout cas, ça peut pas nuire. Mais effectivement, je pense que cet affrontement-là, ça va se passer par le jeu au sol, en tout cas pour les Buccaneers.
Dans le dernier match, Miguel, de l'Américaine, qui se tiendra dimanche à 13h, on a la sensation d'avoir David contre Goliath. Les Broncos et leur fiche de 17. Ah, voilà. Et les Bills et leur fiche de 13-4. Mais justement, répondons aux gens, là, les Bills qui ont souvent déçu en éliminatoire. Est-ce qu'il y a un piège qui se trouve du côté des Broncos? Les Bills sont invaincus à domicile cette année. Les Broncos sont 4-5 à l'étranger. Donc, rapidement, en regardant ça, on se dit qu'il y a un net avantage du côté des Bills. Et c'est le cas, là. Vous allez voir lors des explications qu'on va vous donner que les Bills, c'est toute une machine de football, là.
Oui, absolument. Moi, je trouve que c'est une des belles équipes que j'aime regarder quand je me parque sur mon divan le dimanche avec, mettons, les Lions. Mais Josh Allen, tu sais, on parlait des MVP tantôt avec Lamar Jackson qui statistiquement pourrait être le MVP, mais Josh Allen est presque côte à côte là, avec lui.
Ah,
Écoute, il prend son équipe sur ses épaules, puis tu regardes les noms qu'il a. En attaque, ce gars-là, il n'y a pas tant de,
pas
t'sais,
de
il n'y a pas
joueur
de
étoile.
défensif étoile, il n'y a pas de Saquon Barkley avec lui, il n'y a pas de Ja'Marr Chase avec lui. Fait que
Non,
c'est
mais il y a des joueurs
vraiment.
qui font le travail vraiment dans le système là.
C'est un comité. Okay? Fait
Voilà.
que t'as Josh Allen, puis après ça, t'as vraiment. Il distribue le ballon un petit peu partout. J'ai regardé les meneurs par le jeu aérien, puis c'est relativement bien distribué.
Voilà.
Fait que,
Donc,
donc,
on parle
non,
ici
écoute.
de Shakir, de l'hier approché, pardon, Kincaid, de Hollins, la recrue Coleman, James Cook, qui est un bon porteur de ballon. Moi, ce qui m'a le plus frappé de Josh Allen, si on regarde ses statistiques, le passing rate de 101,4, 28 touchés, 6 interceptions, quand même 531 verges au sol. La statistique qui, pour moi, résume le mieux la saison de Josh Allen, ce sont ses 12 touchés. Combien de ces 12 touchés ont été des courses improvisées? Ça n'a pas été des faufilades à la ligne d'une verge tout le temps. Ce sont des jeux où il a débordé, où il a vraiment étiré le jeu, où il a vraiment voulu continuer, faire progresser son attaque et ça a payé. C'est un gars qui a foncé tête première, mais de manière sécuritaire, contrairement à toi.
Et Richardson, les Colts.
Exactement, mais je trouve que ça résume bien sa fougue. Au niveau statistique, Lamar, c'est plus étincelant, mais sa fougue font de lui un candidat là, de choix là, justement pour ce MVP-là.
Absolument. Puis, écoute, je pense qu'il a donné une des meilleures photos de la NFL de la saison. C'est sur le jeu. Il a fait une passe. La passe a été déviée. Il a rattrapé sa passe. Il a plongé. La neige tombait pour le toucher. C'était de toute beauté. Puis, ce gars-là, c'est un des pires trash talkers sur le terrain qu'il n'y a
Ouais.
pas. Fait qu'il en mange du football. Il veut être d'en face de l'adversaire. Il veut être cocky. Fait que j'ai vraiment une belle attitude puis une drive pour aller chercher les victoires pour son équipe.
La défensive des Broncos, bien que méconnue, est capable de très belles choses. On est 19e contre la passe, donc on pourrait avoir certains problèmes à ce niveau-là, puisque Josh Allen pourrait aller chercher un match de 350 verges par la passe. On est 3e contre le jeu au sol. On a un Pat Surtain qui est assez bon pour éliminer complètement un receveur. Le problème du côté des Bills, tu le mentionnais, on n'a pas de joueur étoile. Un Pat
Exact.
Surtain aurait été excellent pour éliminer un Ja'Marr Chase contre les Bengals, par exemple. Par contre, Pat Surtain, qui est un des meilleurs demi de coin de cette ligue-là, va éliminer un
Un
Keelan
Shakir
Coleman.
ou
Ça va
Coleman.
laisser quand même beaucoup de place aux autres receveurs parce que le reste de la tertiaire, c'est beaucoup moins reluisant du côté des Broncos, là.
Non, exactement. C'est ce que j'ai noté aussi. Là. T'sais, beau comité de receveurs à Buffalo, mais c'est ça. Surtain, il ne pourra pas tout faire. Fait qu'il est comme trop bon. Il va en couvrir un, mais le reste, après ça, il va falloir qu'il se débrouille quand même. Puis Allen, en étirant les jeux, écoute, ses receveurs, ils trouvent le moyen là, de se libérer. Ce que j'ai noté, la défensive des Broncos, sont troisième contre la course. Ils sont troisième au niveau des points par match. Donc, c'est quand même une excellente défensive. T'sais, moi, oui, on parle d'un mismatch, les Bills sont beaux, sont bons, mais j'ai l'impression que ça va être beaucoup plus serré qu'on peut le penser à première vue.
Et les Broncos sont numéro un dans la NFL pour les sacs.
Oui,
On a
exact.
63. Oui, c'est un comité, mais on a un Bonito qui est à 13,5. Zach Allen qui est excellent. On affronte, oui, une bonne ligne offensive, donc il n'y aura pas vraiment là, la disproportion n'est pas trop aussi flagrante que dans d'autres affrontements, mais on a vraiment une défensive qui peut causer des problèmes aux Bills et une équipe qui est habituée de jouer dans le froid, ça faut le dire, ça a un impact majeur quand tu vas à Buffalo. Donc ça, ils n'auront pas peur d'aller jouer dans une température de moins 5, moins 10. Là.
Non, ça c'est sûr.
Contrairement, puis, contrairement aux Dolphins l'an passé.
oui, c'était froid un peu. Mais tu parlais des sacs numéro 1, puis c'est comme chaque affaire qui est bon pour les Broncos, le match-up n'est pas bon pour eux. Parce que tu parlais de certain et dominant, mais là, il faut qu'ils couvrent un comité de receveurs qui sont bons un peu partout. Fait que ça ne marche pas tant. Puis Denver numéro 1 pour les sacs, mais Josh Allen, il se fait pas saquer. Il se fait saquer 2,6% du temps. Fait que ça, il est le numéro 1. Puis il y a juste 8 turnovers pour Buffalo. Ça, c'est le meilleur depuis 1933 avec, je pense, les Saints en 2019. Fait que tu sais, oui, la bonne défense, mais les Bills cette année sont comme une coche en haut.
Si on regarde l'attaque des Broncos, on n'a pas le choix d'admettre que c'est vraiment grâce à Bo Nix qui les a menés en éliminatoire. C'est une recrue, un joueur quand même qui est capable du meilleur comme du pire. Il doit éviter les revirements. Là, c'est 12 interceptions et 3 échappées dans son cas. Mm-hmm. Il y a peu de difference maker là, dans son attaque. Là. Courtland Sutton est une bonne option par la passe, mais on n'a aucun porteur de ballon qui est capable d'avoir un impact pendant 60 minutes de temps. Donc, il va vraiment falloir que Bo Nix fasse de la magie parce que ça va être difficile.
Oui, absolument. Puis, tu sais, j'ai quand même été surpris quand je me préparais pour cette confrontation-là, puis je sortais les statistiques des deux corps arrière, tu sais, face à face. Puis, tu sais, le pourcentage d'efficacité, Bo Nix est en haut de 3% de Josh Allen. Touché par la passe, il y en a un de plus. Comme tu l'as dit, les interceptions, il y en a le double. Ça, il faut qu'il protège le ballon. Puis les verges totales, 3775. Allen, 3731. Donc, tu sais, c'est... Veux pas, il... Puis Allen, on parle d'un MVP. Fait que Allen, c'est vraiment son jeu au sol, mais Bo Nix a connu une excellente première saison, je trouve. Puis, tu sais, je les mettais pas, là, les Broncos, en début de saison là-dedans, parce que avec Sean Payton, ça n'avait pas été fructueux à Denver. Puis là, finalement, cette année, ça a débloqué. Mais par contre, Thierry, tantôt, il parlait, je ne me rappelle plus l'équipe, qui avait une fiche un petit peu suspecte, je pense que c'était les Commanders. Quand on regarde les victoires des Broncos, c'est pas nécessairement des grosses équipes non plus. Là. Donc, c'est un petit peu inquiétant, ça aussi.
Pour terminer sur cet affrontement, la défensive des Bills, pas la plus reluisante, on est 24e par la passe. On doit noter le retour de leur général Matt Milano qui est revenu en fin de saison, qui change complètement la dynamique de cette défensive-là. Pour que les Bills fassent un bout de chemin en série, c'est primordial que Milano reste en santé parce qu'il peut vraiment, il dynamise tout le monde. Là, c'est le capitaine de cette défensive-là. Donc un Matt Milano qui est dominant change complètement cette dynamique-là. Là.
Absolument.
Dernier affrontement dans la nationale qui aura lieu lundi 20h. Thierry, ce sont les Vikings qui, malheureusement, auront le parcours à l'étranger. Là, devront, à moins d'une surprise dans laquelle les positions 5, 6 et 7 passent, on sera à l'étranger durant les éliminatoires. On a terminé avec une fiche de 14-3. Donc, ça montre à quel point la division Nord était relevée. On aurait terminé premier dans deux des quatre sections. Donc, avec les Lions, avec les Packers, on avait vraiment une grosse division. On a quand même fini avec une fiche de 14-3. On rend visite aux Rams qui ont terminé premier de leur section, fiche de 10-7. On termine quatrième. Par contre, la défaite des Rams à la semaine 8 fait en sorte qu'ils affrontent les Vikings au lieu des Commanders. Donc, on se dit des fois, là, on repose nos partants. Matt Stafford ne jouait pas. On a reposé nos partants pour éviter une blessure. Mais dans ce cas-ci, peut-être que ça aurait pu être intelligent d'essayer de gagner pour justement terminer plus haut, pour prendre la place des Buccaneers, parce qu'on termine avec la même fiche des Buccaneers. Et les Rams ont terminé avec une défaite contre les Seahawks. Donc, pour moi, c'est une défaite qui est quand même lourde de sens. Les Vikings, avant de te laisser la parole, Thierry, sont 6-2 à l'étranger. Les Rams sont 5-4 à domicile, mais est-ce qu'on peut vraiment dire que les Rams vont être à domicile? Je pense qu'on risque de voir plus de chandails mauve dans le SoFi que de chandails de la couleur des Rams.
Là. C'est ouais, le seul avantage d'être à la maison pour les Rams, c'est qu'ils n'auront pas à prendre l'avion, là, mais sinon, ils n'auront pas l'avantage chaud, dans le SoFi Stadium, là, effectivement. Cette confrontation-là, je la trouvais vraiment intéressante et difficile à classer parce que c'est sûr que sur papier, sur l'affiche, les Vikings sont vraiment plus forts. Mais on se rappellera que les Rams ont infligé le premier revers aux Vikings vers la mi-saison. Donc, c'est quand même surprenant après ça. Les Rams, comme on en parlait tantôt, moi, Étienne, ils brillent pas nulle part. ils sont pas premiers par les verges par la passe. Sont loin par les verges au sol. Les points par match sont 20e. Les verges chasseurs sont 15e. Il n'y a pas une place que tu te dis ah, ça, c'est la force des Rams. Mais ils nous sortent des matchs, des fois, tu es comme qu'est-ce qu'ils font là?
Mais on a des joueurs vedettes. On parlait d'équipes qui manquaient de joueurs de vedettes à l'attaque. Les Rams, on en a là, rapidement. Oui, Matt Stafford n'est plus ce qu'il était. Un passing rate de 93.7, mais peut être très efficace. Pourquoi n'a quoi Karen Williams, Cooper Kupp, ça peut changer un match à eux seuls.
Mm-hmm. Oui, mais ça ce qui aide aussi les Rams, c'est qu'il y a un bout de la saison où on n'avait pas Cooper Kupp, on n'avait pas Puka Nacua, c'était ouais. Comme un peu la chaise musicale des receveurs. Là, tout le monde est là, en tout cas, tout le monde qui est supposé être là sont là. Mais tu sais, comme je regardais un petit peu leur saison, à Manon, on a battu les Bills, qui étaient en feu, on disait c'est l'équipe à battre. Les Rams arrivent là à Buffalo, les battent. Puis la semaine suivante, elle joue contre les 49ers qui sont décimés par les blessures, puis ça leur prend de peine et de misère pour gagner 12-6. Donc, tu sais, c'est une équipe qui est vraiment en montagne russe. On ne sait pas trop quelles performances peuvent nous donner. Donc, ça, c'est. Ça va être à surveiller. Mais effectivement, si ça passe par quelque chose, ça va être par le jeu aérien parce que c'est sûr que Puka Nacua et Cooper Kupp, c'est tout qu'un duo. Puis c'est pas la force des Vikings de surveiller le jeu aérien. Ils sont 28e. En défensive contre le jeu aérien. Donc, c'est sûr que ça, c'est le filon à utiliser pour les Rams. Mais c'est une équipe qui est quand même très, très étrange, je vais dire.
Effectivement, la tertiaire des Vikings est un petit peu plus suspecte. Notre front défensif, par contre, est complètement dominant. Là, on est quatrième pour les sacks. On affronte une bonne ligne offensive quand même. Quatrième pour les sacks. On a un duo de secondaire, tout étoile. Les deux seront au Pro Bowl. Jonathan Greenard et Andrew Van Ginkel qui ont terminé respectivement avec 12 et 11,5 sacks. Donc, c'est le cœur de cette défensive-là. J'aime dire que lorsqu'on a des secondaires dominants, on a une défensive qui brille. Ben, c'est le cas des Vikings, même si ça n'a pas paru à la dernière semaine contre les Lions. On est bien dirigé. Et là, on entend des folles rumeurs comme quoi Kevin O'Connell pourrait être échangé contre
ben oui, j'ai vu ça.
Haut choix au repêchage. Donc, c'est complètement la folie. Et on semble vouloir, du côté des Rams, se rallier sur des petits éléments. Là. L'entraîneur Dan Campbell l'a mentionné après la victoire contre les Vikings qu'on se voit dans deux semaines. En faisant un sous-entendu que c'était qu'une formalité pour les Vikings de battre les Rams. Mais comme tu l'as mentionné, c'est une attaque qui est quand même solide et qui peut causer des troubles à cette défensive-là.
Ouais, moi, ce que j'ai envie de voir aussi du côté des Rams, ben en fait, j'imagine que Sean McVay va l'avoir vu aussi, mais étant donné que tu as des joueurs qui mettent énormément de pression et de la pression rapidement. J'aimerais savoir un Kyren Williams ou peut-être un Tyler Higbee ou Cody Parkinson, les deux ailiers rapprochés, contribuer plus à la protection de passe pour empêcher justement ces joueurs-là d'arriver trop vite puis trouver des façons de rejoindre nos joueurs rapidement. Puka Nacua, Cooper Kupp sont bons aussi pour les verges après l'attraper. Donc, trouver des schémas pour faire des passes courtes, amener un petit peu plus de protection, mais de ne pas avoir des jeux à long développement, que Matthew Stafford fait 5 pas de recul, regarde ses options. C'est là justement que des Van Ginkel puis vont venir bousiller un peu le travail de l'offensive. Donc ça, à mettre en note pour les Rams.
Avantage aussi aux Vikings du côté de cette confrontation attaque-défensive. On a une attaque très équilibrée. On est sixième par la passe. Là, Sam Darnold, un rate de 102.5 sera justement au Pro Bowl. plusieurs cibles intéressantes avec les Justin Jefferson, un des meilleurs receveurs de la NFL, 1533 verges, 10 touchés, au Pro Bowl aussi, Jordan Addison, TJ Hawkinson, Jalen Naylor, Aaron Jones qui est une menace par la passe aussi, 408 verges, Jones qui peut être efficace au sol, 1138 verges par la course. Donc, on a beaucoup de joueurs qui peuvent faire la différence. Sam Darnold peut distribuer le ballon à pas mal n'importe qui, puis il va être sûr que le travail va être accompli.
Ah oui, tu l'as dit, c'est une offensive qui a beaucoup d'armes. La grosse question, c'est Sam Darnold. Est-ce qu'il peut se relever de cette contre-performance contre les Lions qu'il a eu? Il a manqué tellement des passes. Ce match-là aurait pu être beaucoup plus serré si les passes étaient au bon endroit. Donc, il nous a démontré, par exemple, pendant l'année, qu'il a connu des mauvais matchs, mais s'est relevé le match suivant. Donc, il nous a montré qu'il est capable. Cette année, il n'est pas sur des longues disettes. Il est capable de se relever après une mauvaise performance. Donc, je le souhaite pour lui et pour les Vikings. C'est pour qu'on ait un match intéressant, pour qu'on puisse faire un bout de chemin en éliminatoire. Je voulais juste vous faire un parallèle, les gars. Je ne sais pas si vous vous rappelez, la dernière fois que les Vikings ont été aussi bons que ça, c'était en 2017. Il y a un certain Sam Bradford qui s'est blessé au début de l'année. Personne ne les voyait aller loin. Ouais. C'est un carrière réserviste qui est venu, c'est quoi? Case Keenum, qui est arrivé de nulle part. Il a commencé l'année, personne ne s'attendait à ce que les Vikings fassent quelque chose. Finalement, ils étaient premiers de leur division, ils ont une saison de feu. Ils sont allés en finale d'association contre les Eagles. Ils avaient battu les Rams avec un jeu spectaculaire de Stephon Diggs à l'époque. Oui. Mais c'est comme l'histoire qui se répète.
Oui. Les Saints,
le carrière partant se blesse, c'est un backup qui prend la place, puis ils sont dominants. C'est vraiment le même scénario qu'on a eu.
C'est vrai.
En 2017.
C'est très vrai. Et les attentes seront grandes. Du côté des Vikings, là, on a des partisans, vraiment une des bonnes bases de partisans de la NFL. Et on a faim, on a hâte, on veut une équipe championne. Donc, je ne sais pas si ça va passer par cette année, mais on a quand même un duel qui est relevé pour cette première semaine-là. Juste terminer sur la défensive des Rams. Tu parlais, Thierry, que les Commanders sont jeunes, mais... La défensive des Rams, c'est ça aussi. Là. Le front défensif, on a 6 joueurs sur 7 des partants, 6 joueurs sur 7 qui ont 25 ans et moins. On a probablement la meilleure recrue dans la NFC au niveau défensif en Jared Verse qui sera au Pro Bowl. J'avais adoré leur sélection. On était capable, je ne sais pas pour vous, je m'attendais à un creux de vague du côté des Rams après leur Super Bowls. On avait échangé une tonne de choix de première ronde. Aaron Donald a quitté. On est capable de faire un shift très rapidement de cette équipe-là. Donc, je suis quand même content, même si ce n'est pas l'équipe la plus sexy, là, je suis content de les voir en éliminatoire.
Sean McVay.
Sean McVay qui dirige toujours très, très bien ses équipes. Donc, voilà, c'est ce qui fait le tour des 6 affrontements, les gars. On y est allé un petit peu des tendances que pourrait prendre un match. Reste que l'année passée, on avait eu le droit à quelques surprises assez frappantes. Mais là, les surprises, on dirait, pourraient venir des équipes qui sont à l'étranger. Là, on peut penser aux Chargers, aux Vikings, même aux Commanders. Mais je ne sais pas à quel point ce serait vraiment des surprises. J'ai l'impression que nos équipes qui sont à domicile, qui reçoivent à la maison, sont peut-être un petit peu moins fortes que par le passé. Donc, la parité est là. On a certains affrontements qui sont, qui mettent en place les têtes d'affiche de chacune des deux côtés. De ce qu'on a dit, je n'ai pas l'impression qu'on va trébucher de ce côté-là. Mais quand même, là, avec tout ce qu'on a dit, il y avait peu d'éléments où on se disait ben, c'est une garantie, c'est une victoire d'une équipe ou d'une autre. Je pense qu'on devrait avoir un bon 6 affrontements cette semaine-là entre quand même, oui, pas tout le monde qui rentre avec un momentum, mais 12 bonnes équipes dans la NFL. On passera beaucoup, on va couper de moitié dès la semaine prochaine. Donc, ça va faire quand même, ça va vite dans la NFL.
Ouais.
Les séries, ça s'enchaîne rapidement. Pour terminer, les gars, on ne va pas faire nos prédictions de tous les affrontements. On ne va pas aller jusqu'au bout. Par contre, certains de nos auditeurs font probablement des pools, des brackets, et qui nécessitent parfois de classer une équipe qui sera leur favorite pour le Super Bowl. Donc, pour le plaisir, on aura l'occasion de s'en reparler à chaque semaine. Mais pour le plaisir, à chaud comme ça, je vous demanderai qui serait votre équipe favorite pour le Super Bowl. Puis cette réponse-là pourra changer au fur et à mesure si jamais il y a des équipes qui sont convaincantes ou non. Tiens, Mickaël, pour commencer.
Oh, OK.
Je te prends de revers un petit peu. Là, mais...
Écoute, j'hésite beaucoup entre deux équipes, une dans la nationale américaine, les Bills ou les Lions. Écoute, je ne sais pas, les Lions, on n'en a pas parlé, mais si Dan Campbell, tu sais, ses quatrièmes essais, ça peut payer, mais des fois, il se tire dans le pied.
J'aimerais... C'est plus conservateur un petit peu, peut-être, ça pourrait l'aider. Là.
Ouais, mais écoute, je vais y aller. Oh my God.
Mais tu sais quoi, je vais prendre ça, c'est une belle finale, Bills-Lyon.
Ouais.
On va y aller avec ça.
Puis je vais y aller avec les Lions, tiens. Lions, Super Bowl.
Thierry, de ton côté?
Ouais, j'aurais pas le choix de remettre ma casquette des Eagles.
J'aime ça.
Je parle pour mon équipe, mais je pense que les Eagles, c'est sûr, là, il y a un petit peu de partisanerie. Là, je mets ma casquette.
Ouais, vas-y.
Les Eagles, je pense qu'ils ont des bonnes chances de se rendre au bout. Avec leur grosse défensive qu'ils ont, c'est une des meilleures qu'ils ont jamais eues. Mais en fait, je pense que c'est la meilleure défensive qu'ils ont jamais eue, les Eagles. Après ça, ils ont une attaque. Ils ont des gros canons partout. Il n'y a aucune position, que ce soit en attaque ou en défensive, qu'il y a un trou. Ils sont forts partout. Puis j'imagine que, mettons, ils arrivent contre les Lions. Les Lions, eux autres, leur défensive est complètement déchirée. Ils n'ont plus de force là. Donc, j'ai l'impression que ça va leur jouer des tours. Puis de l'autre côté, je vais dire je vais prendre une équipe que ça ne me tente pas, mais qu'ils vont être là. Les Chiefs.
Ben justement.
Cette année, ils ont tout gagné, puis c'était même pas beau. C'est genre la meilleure équipe poche que j'ai vue depuis longtemps. Ils trouvent toujours une façon de gagner, puis on est comme ça. Là, ils vont perdre. Patrick Mahomes, il est pas bon, et il joue mal. Il n'y a pas des bonnes statistiques, puis il trouve des façons de gagner tout le temps. Puis j'ai l'impression que ça va
qu'on en parle arriver la semaine prochaine, parce que les Chiefs, c'est une équipe de série. On s'est rendu, on a terminé premier, mission accomplie. En tout cas, on met ça à l'agenda pour la semaine prochaine. Ce qui est évident, les gars, c'est que lorsqu'on prépare justement cet épisode, lorsqu'on prépare une confrontation, surtout en éliminatoire, l'analytique, les données sont énormes au football. Donc, on a essayé de vous scinder ça de manière le plus concis, même si on vous a lancé pas mal de chiffres lors de cet épisode. Ça montre quand même, contrairement... Le football, c'est le sport qui est le plus... facile, mais difficile aussi à analyser parce qu'on a une attaque qui est contre une défense. Donc, c'est vraiment A contre B, A contre B de l'autre côté, alors que dans d'autres sports, on doit prendre tout est en considération, tout est mêlé. Mais il y a tellement de données qui peuvent faire changer la donne d'un côté comme de l'autre. Donc, on espère que vous avez apprécié cet épisode et que surtout, ça vous a mis dans l'ambiance pour ces éliminatoires-là qui s'annonce vraiment là, extraordinaire de part et d'autre. Là, on a mentionné les Vikings, les Lions, les Eagles. L'autre côté, les Chiefs, les Ravens, les Bills. On pourrait même avoir des équipes surprises. Les grosses équipes sont là. Peut-être des équipes Cendrillon qui peuvent se faufiler. Tout est possible dans le merveilleux monde de la NFL et c'est ce qui rend ça le plus fabuleux possible. Fait que les gars, je vous dis merci pour cette excellente couverture. Je rappelle aux gens qu'à chaque semaine, on va vous faire une mise à jour des affrontements de la semaine précédente et on va se préparer pour la semaine d'après, ce qui va nous mener au Super Bowl. Donc, une couverture vraiment mur à mur du temps d'arrêt cette année. Donc, on espère que vous allez embarquer à pieds joints comme nous autres dans cette merveilleuse aventure. Et parce que c'est tellement agréable que de parler et de couvrir le football. Donc, je vous remercie les gars d'avoir partagé, d'avoir embarqué un petit peu dans ce projet d'envergure pour ce mois de janvier-ci.
Ah oui, ça fait plaisir. C'est le meilleur temps de l'année. Les éliminatoires, là, ça passe vite. T'sais. On dirait que la saison morte arrive, on a hâte que ça commence. Puis mon Dieu, on est déjà rendu au play-off. Fait que du beau football à venir. Là.
Exactement. Fait que les gars, je vous dis un gros merci. Merci à tous nos auditeurs d'avoir été présents. On se donne rendez-vous la semaine prochaine et on se dit bonne fin de semaine de football à tous et on se dit à un prochain épisode du Temps d'arrêt.